Bonsoir à toutes et à tous. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour l'avant-dernière conférence qui aura lieu dans cette salle, avant de retrouver en septembre un amphi tout neuf. Et donc, les prochaines conférences que je vous annonce maintenant, ce sera donc celle de juin, 6 juin, je crois, je n'ai pas vérifié, la place des amas de galaxies dans notre univers. Alors venez, c'est passionnant, les amas de galaxies, je travaille dessus depuis 40 ans et il faut absolument que vous sachiez tout sur les amas de galaxies, par Céline Gouin, qui est donc une chercheuse récemment recrutée au CNRS à l'IAP. Et le 2 septembre, nous ouvrirons la saison avec Frédéric Daigne, aussi de l'IAP, que vous connaissez peut-être parce qu'il a déjà donné des conférences, mais il y a un certain temps, donc dans l'amphi rénové, sur la mission SVOM, qui est une mission franco-chinoise d'observation des rayons gamma et l'étude des sursauts gamma. Voilà, donc ensuite, je ne vous parle pas de la conférence d'octobre parce qu'on n'est pas encore tout à fait sûr, mais on va vous préparer encore des choses intéressantes pour l'automne. Ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Kumiko Kotera, que j'ai connue, je ne dirais pas toute petite, mais enfin, quand elle était étudiante. Donc, elle a fait sa thèse à l'IAP. Elle a été ensuite postdoc à l'Université de Chicago, puis à Caltech. Et elle a obtenu un poste CNRS à l'IAP. Elle est médaille de bronze du CNRS. Elle est à la fois cofondatrice et co-porteuse de parole du grand projet Grande, dont elle va vous parler dans une petite minute. Elle est autrice de L'univers violent, un livre paru tout récemment chez Albin Michel, qui devait être en vente aujourd'hui, mais il y a eu un petit couac, je crois, puisque le libraire qui devait venir le vendre ne semble pas être là. Si, pardon, elle est là, tout va bien. Et Kumiko est directrice de l'IAP depuis le 1er janvier. C'est la première femme directrice de l'IAP. Et elle va donc nous parler de l'univers violent. Merci Kumiko.
Bonsoir. Vous m'entendez bien ? Merci beaucoup Florence pour cette belle introduction. Et merci à tout le monde d'être là. Ça m'émeut toujours de voir cette salle, enfin cette salle ou l'amphithéâtre, c'est encore plus massif, mais pleine. Et de voir aussi que ces conférences de l'IAP, ces conférences grand public, sont complètes dès l'ouverture. Ça veut dire qu'on arrive à préserver ce lien entre la science et le public. Et je pense qu'en ces temps, c'est assez essentiel. Et ça fait très plaisir. Donc, c'est une des missions principales de l'Institut d'astrophysique de Paris, de cette diffusion des connaissances, de vous faire rêver, de transmettre ce sur quoi nous travaillons dans notre quotidien, à vous qui, in fine, nous financez. Donc, merci beaucoup pour votre soutien et merci d'être là pour aussi partager ces rêves que nous avons. Alors, je voudrais vivement remercier toutes les personnes cruciales qui font que ces conférences grand public sont possibles et qui, en fait, sacrifient un bout de leur vie privée quand même pour tous les premiers mardis du soir du mois, pour vous faire vivre ces conférences. Donc, je voudrais remercier Florence Duré et Guillaume Hébrard, qui sont donc les organisateurs, les chercheurs qui organisent et programment ces conférences. Merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier Christophe Gobet, qui est le responsable technique de notre institut, qui est vraiment un pilier de l'IAP et qui fait que donc, toute la logistique ici est lisse, est faite et sécuritaire. Enfin, on a aussi la captation qui est assurée, bien sûr, par Jean Mouette, mais aussi par Frédéric Magnard, qui est ingénieur d'ailleurs sur le projet Grande, dont on va parler, et puis Tancred Ménard, qui aussi assure souvent la captation. Et enfin, donc, bien sûr, Jean Mouette, qui est notre chargé de communication à l'IAP et qui est le grand organisateur des conférences de l'IAP depuis 30 ans. Donc ça, c'est un peu la fierté de la maison, c'est que depuis 30 ans, on a eu tous les mois, sans interruption, c'est ça, même pendant Covid, les conférences de l'IAP. Et depuis plusieurs années, là maintenant, elles sont filmées et disponibles sur YouTube. Donc vous pouvez d'ailleurs aller les regarder. Voilà, donc merci beaucoup Jean. Et merci donc à tous d'être là. Alors maintenant, je vais vous parler de ce sujet qui nous intéresse, qui est la chasse aux messagers de l'univers violent. Lorsque on se promène le soir dans l'univers, c'est un peu cette image qu'on a du ciel, quelque chose de paisible, qui est serein, qui nous fait rêver, et qui est immuable. Seulement, si vous alliez dans l'univers et que vous vous promeniez, vous assisteriez à des objets comme ça. Donc là, ça s'appelle une supernova. C'est la fin de vie d'une étoile massive qui s'effondre sur elle-même et à la fin explose et qui libère évidemment du coup une énergie folle dans l'univers. Vous pourriez avoir rencontré d'autres objets comme les sursauts gamma. Ça, c'est une étoile encore plus massive qui termine sa vie en s'effondrant encore une fois sur elle-même, mais en émettant des grands jets. Et au moment où ces sursauts gamma se produisent, ce sont les objets les plus lumineux de l'univers. Vous pouvez aussi assister à des fusions d'étoiles à neutrons. Les étoiles à neutrons, ce sont les étoiles les plus petites de l'univers, petites mais costaudes. Elles arrivent souvent par paires. Et lorsqu'elles se rencontrent à la fin de leur vie, elles vont créer une explosion comme ça, avec un grand jet qui ressemble très fortement à un sursaut gamma. Donc on a en fait un univers non pas paisible, mais violent, puisque on a ces libérations d'énergie sur des temps très courts qui arrivent de façon très régulière, enfin régulière à l'échelle de l'univers, hein, et auxquels en fait on peut assister et on assiste à ces événements assez régulièrement, nous astronomes, depuis quelques décennies maintenant. Mais c'est vraiment cette dernière décennie où il s'est passé des choses incroyables pour essayer de comprendre cet univers. Donc pour comprendre cet univers violent, on va avoir une approche multimessager ou multisensorielle. Et ça, c'est le grand boom de l'astronomie. Lorsque on veut comprendre un objet, on peut regarder un bout. Voilà, par exemple, là, vous avez cette parabole de l'éléphant dans une légende indienne. Vous pouvez regarder sa queue et vous dire « Ah, ça va être un objet un peu long. » voilà. Ou alors ses pattes et se dire « Ah, c'est un truc bien massif. » Puis peut-être même le toucher. Enfin bon. En fait, pour comprendre un objet, il faut croiser le plus d'informations possible. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec l'astronomie. Déjà, astronomie multi-longueur d'onde, c'est-à-dire qu'on va essayer de regarder toute la gamme de lumière qui nous est envoyée par les différents astres. Donc, la lumière visible, celle que vous voyez avec vos yeux, je pense que vous le savez tous, mais c'est une toute petite fraction de ce qu'on appelle le spectre électromagnétique, c'est-à-dire de la lumière qui existe dans l'univers. Après, si vous allez à plus basse fréquence, en fait, c'est comme les notes de piano, donc vous avez, enfin, les notes de musique, vous avez des fréquences basses et des fréquences hautes. Fréquences basses, c'est basse énergie, donc vous allez avoir des ondes infrarouges, micro-ondes, radio. Et lorsque vous allez aller à plus haute énergie, vous allez tomber sur les ultraviolets, les rayons X, rayons gamma. Et tout ça va nous permettre de sonder, de regarder tous ces objets violents qui, en fait, l'univers en entier, mais aussi les objets violents qui émettent différentes gammes de lumière. Donc ça, c'est bien. On regarde les objets avec les yeux, on regarde le ciel avec les yeux. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait depuis la nuit des temps. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Eh bien, on pourrait essayer de toucher l'univers. Toucher l'univers, c'est-à-dire essayer de le sentir avec des particules qui vont nous pleuvoir dessus. Et c'est exactement ce que fait l'univers. L'univers nous envoie ce qu'on appelle des rayons cosmiques, qui sont des noyaux atomiques, et qui nous pleuvent dessus. Là, si vous sortez continuellement, vous avez des rayons cosmiques qui nous sont envoyés, et qui nous permettent donc, d'une certaine façon, d'avoir une expérience tangible de l'univers. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? On va pouvoir entendre l'univers. En fait, ce n'est pas vraiment qu'on entend, parce que l'univers, c'est du vide, et le son, C'est quelque chose qui n'existe que dans du non-vide, par exemple de l'air. Mais en fait, les ondes gravitationnelles, lorsque vous avez des objets massifs qui bougent dans l'univers, ça va déformer et perturber la toile de l'espace-temps. Et ces petites perturbations, ça va se traduire en des ondes, comme ça, de l'espace-temps, qu'on va pouvoir détecter, qu'on détecte en fait depuis 2015, et qui sont donc une façon d'entendre l'univers. Et enfin, donc ce que j'ai affiché là, c'est ce qu'on appelle les neutrinos, qui sont un autre type de particules qui m'intéresse beaucoup et dont on va parler. Et les physiciens, qui sont gourmands, ont décidé d'appeler une des caractéristiques physiques de ces particules la saveur. Et donc, ces neutrinos qui nous sont envoyés par l'univers, en particulier par les objets les plus violents de l'univers, vont nous permettre de goûter l'univers. On a vraiment une expérience multisensorielle. On va voir, toucher, entendre et aussi goûter l'univers. Et peut-être que de cette façon, on va pouvoir mieux le comprendre. Alors, je voudrais un peu revenir sur cette histoire de son de l'univers. En fait, on a pour les détecter, c'est très compliqué parce que ces perturbations de l'espace-temps, c'est des variations infinitésimales. Alors pour ce faire, on a des détecteurs qui ont été construits, qui s'appellent LIGO Virgo, deux aux États-Unis, à l'état de Hanford et à l'état de Livingston. À Hanford et à Livingston, dans l'état de Washington et de Louisiane, et un autre détecteur, Virgo, à Pise, en Italie. En fait, on va mettre des détecteurs positionnés très loin sur le globe terrestre parce que ça permet d'être sûr que si jamais il y a un signal détecté sur les trois détecteurs, c'est pas un oiseau qui a fait cucui, c'est vraiment quelque chose qui a traversé l'ensemble de la Terre et qui nous a permis, arrosé de ce son de l'univers. D'accord ? Donc, ce qu'il y a là, c'est des interféromètres. C'est des tunnels de 4 km de long en L où il y a à l'intérieur des miroirs. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer des lasers qui vont réfléchir sur des miroirs, revenir, faire parcourir plusieurs fois tous ces bras. Et à la fin, l'idée, c'est de voir si cette lumière qui arrive sur un écran va avoir des petites signatures d'une perturbation d'un dix millième de la taille d'un proton. Voilà. C'est ça l'idée. Et ça a été fait. C'est ça qui est dingue. Ça a été fait en 2015. Donc, pour la première fois, on a détecté la coalescence, donc la fusion de deux trous noirs. Et deux détecteurs ont vu un signal. Et le troisième n'a pas vu de signal, ce qui nous a permis en fait de localiser l'événement dans le ciel. Donc c'est bien de voir du son, mais croiser les informations, c'est encore mieux. Donc on veut pas voir juste les ondes gravitationnelles, on veut pas juste entendre les ondes gravitationnelles, on veut aussi voir de la lumière en même temps. On veut pas juste faire comme on a toujours fait dans l'humanité, on avait des photos de l'univers. À un moment, on a vu que il y avait des événements qui explosaient. On s'est mis à faire du cinéma de l'univers. Ça, c'est la première étape. Et ensuite, pour l'instant, c'était du cinéma muet. Et d'un coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu son et lumière. Donc, du cinéma, son et lumière. Donc, c'est ce qui s'est passé. Si on avait du son, on entendrait ta super carte de vœux, Jean. Donc, le 17 août 2017... Ce qui s'est passé, c'est qu'on a vu pour la première fois un événement dans le ciel en son et en lumière. Je vais le repasser. Pardon. Hop. Donc à 12h41, temps universel, les interféromètres LIGO et Virgo ont détecté des ondes gravitationnelles. Et ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a été regardé dans les données d'un satellite gamma, donc de lumière, et a vu qu'il y avait eu une explosion en même temps. Donc ça, c'était vraiment jackpot. Et comment ça s'est fait ? Eh bien, au moment où LIGO Virgo a commencé à avoir ces données, toute la communauté s'est mise en branle. C'était un moment de grande collectivité. Donc, il y a un signal qui est vu. Les membres de LIGO Virgo se mettent à analyser le signal, se disent « Attends, là, il se passe un truc, vraiment, c'est ça l'air réel. Il y a un signal qui a eu lieu. » Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? On envoie sur toute la planète des signaux, des messages en disant « Regardez, tout le monde, tous les observatoires, mettez-vous à pointer dans la direction vague qu'on vient de voir. » Et c'est comme ça que donc, le satellite Fermi qui a orbité a pu voir qu'il s'était passé un flash juste 2 secondes après le signal d'onde gravitationnelle détecté. Et puis ensuite, il a fallu pointer tous les télescopes de la Terre et aller regarder finement dans ce patch de ciel qu'on venait d'identifier où il y avait eu ce flash gamma et les ondes gravitationnelles et essayer de chercher s'il y avait d'autres signatures. Et là, c'était assez formidable parce qu'on a vu, que ce soit en radio, en visible, dans toutes les longueurs d'onde quasiment, on a vu qu'il y avait une source qui était en train d'exploser et qui changeait. Qui d'un coup, au début, elle était rouge, ensuite d'abord elle était bleue, ensuite elle était rouge. Il y avait la radio qui arrivait ensuite. C'était vraiment assez extraordinaire. Tout le monde était suspendu aux données des télescopes et à sa messagerie pour vérifier que s'il y avait d'autres informations. Et donc c'était ce moment où le cinéma multisensoriel de l'univers violent, enfin de l'univers tout court, a commencé. Sauf que, donc moi c'était marrant parce que au moment où le signal LIGO Virgo a été détecté, moi j'étais enceinte, comme vous le voyez dans ce petit... Il se trouvait que j'étais enceinte de 8 mois, j'étais en train de coller un lait de papier peint, c'est ce que je raconte dans mon livre. Et ensuite, je me dis, mais super, mais en fait, c'est bien le son, enfin la lumière, le son, mais il faut rajouter d'autres particules. Et du coup, je m'étais déjà dit, qu'il fallait absolument construire un détecteur gigantesque qui allait pouvoir détecter des neutrinos de ultra-haute énergie, qui allait nous permettre de goûter aussi cet univers violent et d'avoir un cinéma multisensoriel complet. Et alors, quand je parle de ces particules, je voudrais un peu vous situer les échelles qu'on est en train de parcourir. Donc, je vous propose de prendre ma main et d'aller nous balader dans l'univers. Donc, lorsque vous partez de la Terre, donc là, vous avez le système solaire. Oups, pardon, je vais enlever ça. On va quitter le système solaire, donc là on est à une année-lumière, et à quelques années-lumière, on va avoir les étoiles les plus proches. À, disons, 100 années-lumière, vous allez avoir le groupe local de nos étoiles. Ensuite, là, ce que vous voyez ici, c'est un bras de notre galaxie, notre Voie lactée. Et donc, on va continuer à dézoomer. Là, on est à 1 million d'années-lumière. Vous voyez d'autres galaxies qui nous entourent. Et enfin, donc ça va un peu vite, hein, mais donc là, vous voyez les grandes structures de l'univers avec tous ces filaments. Et nous, ce qui nous intéresse en tant qu'astrophysicien, astroparticuliste, Ce qui nous intéresse, c'est... Bon, je ne vais pas y arriver. C'est quelques filaments que vous avez pu voir. Je vous repasse le film. Mais c'est quelques filaments. Vous avez vu qu'il y avait des grandes structures, une espèce de toile de l'univers. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est donc passer quelques filaments de cet univers parce que c'est vraiment de là... que les particules les plus énergétiques visibles vont nous arriver. Et c'est ce qu'on appelle l'univers local. Et l'univers local, pour nous, vous avez vu, hein, c'est quand même de l'ordre de plusieurs centaines de millions d'années-lumière. Donc voilà, comme ça vous revoyez le film, on dézoome de la galaxie. Un million d'années-lumière, vous voyez notre groupe local avec plein d'autres galaxies. Et là, donc voilà, ça c'est des filaments. Et donc nous, notre univers qui nous intéresse, ça va être quelque chose comme ça. Et c'est là-dedans qu'on va trouver des sources qui vont pouvoir nous arroser de particules. Et maintenant, donc, tout ça, c'était l'infiniment grand. Et si on rezoome à l'intérieur, on va arriver sur l'infiniment petit. Et je vais vous donner un peu cette idée de ce que c'est que ces particules et de quelle échelle on parle. Donc là, on va rezoomer en Californie. On va rentrer dans l'œil de la dame. Et puis là, on va rentrer dans un domaine que je ne connais pas, c'est-à-dire la biologie. Je pense que vous devez être plus connaisseur de tout ça. Bon, en tout cas, il y a des chromosomes, de l'ADN. Donc là, on est à 10 nanomètres. Enfin, 1 nanomètre, c'est 10 puissance moins 9, 0, avec 0, 9 et 1 mètres. Et voilà, là vous êtes dans l'atome. Vous allez rencontrer ici le noyau atomique. Et ça, ce noyau atomique, c'est un rayon cosmique. C'est ce qui nous pleut dessus et c'est ce qu'on essaie de détecter. Voilà. Et qui nous permet donc de toucher l'univers. Voilà, qu'est-ce que c'est qu'un rayon cosmique ? Je viens de le dire. En fait, il faut que je vous parle de rayons cosmiques avant de parler de neutrinos. Vous allez comprendre pourquoi. C'est parce que les rayons cosmiques, ce sont les pères, P-E-R-E, des neutrinos. Un rayon cosmique, donc vous avez des atomes hein, avec leur cortège électronique. Et à l'intérieur de cet atome, vous avez un noyau chargé positivement. Et donc, voilà, ce sont en fait les rayons cosmiques, c'est de la matière qui nous constitue. Des noyaux d'hydrogène, des noyaux de carbone, du fer, donc de la matière bien ordinaire. Et on reçoit sur Terre environ 1 kg de rayons cosmiques par an. Et là, vous dites, c'est nul. Mais en fait, non, c'est pas nul du tout, parce que quand même, un noyau atomique, c'est 10 puissance moins 27 kg. Donc on reçoit 10 puissance 27, donc 1 avec 27 zéros rayons cosmiques par an. Qui nous pleuvent sur Terre. Et certains de ces rayons cosmiques, comme vous voyez là, en rose, là, nous arrivent avec des énergies colossales. Et c'est cela qui nous intéresse, puisqu'ils vont nous permettre de sonder l'univers le plus violent. Parce que cette pluie de rayons cosmiques, les 10 puissance 27, la plupart viennent du Soleil. Le Soleil, lorsqu'il éjecte de la matière, lorsqu'il a des bouffées, nous envoie ce genre de rayons cosmiques. Mais ceux qui sont à ultra haute énergie sont assez mystérieux. Ces rayons cosmiques de ultra haute énergie, c'est des particules qui ont de l'ordre de 10 puissance 20 électronvolts. Donc ça vous dit pas forcément grand-chose, mais c'est une dizaine de joules, c'est de l'énergie macroscopique, c'est une énergie pour chauffer votre tasse de thé. Ça veut dire que si vous avez de l'eau et votre rayon cosmique arrive, pouf, ça chauffe votre tasse de thé. C'est balèze. C'est aussi l'énergie d'une balle de fusil ou alors l'énergie d'une balle frappée par Roger Federer. Et là, possiblement, vous buguez et vous dites, mais en fait, c'est pas terrible. Mais alors, si quand même, parce que accélérer une balle de tennis, c'est facile. En tout cas pour Roger, mais accélérer une particule subatomique qui a très peu de masse, 10 puissance moins 27 kg, c'est compliqué. C'est tellement compliqué qu'avec les technologies actuelles, donc au CERN, vous savez peut-être qu'à Genève, il y a un grand accélérateur de particules, eh bien, on accélère des particules 10 millions de fois moins vite, et si on voulait utiliser ce genre de technologie pour accélérer des rayons cosmiques de ultra haute énergie comme ça, il faudrait un accélérateur de la taille de notre galaxie. Et là, vous dites, ah, quand même. Voilà. Donc, Pourquoi je vous parle de rayons cosmiques? Parce que, donc, comme je vous disais, c'est une façon de... Enfin, c'est des particules qu'on détecte. Donc, les rayons cosmiques de ultra haute énergie, on les détecte depuis 1960. Et ce sont des particules qui nous proviennent de l'univers violent. Sauf que, parce que c'est des particules chargées et que l'univers est magnétisé, eh bien, elles vont arriver, pas en ligne droite, mais en étant déviées par tous les champs magnétiques, des champs d'aimants dans l'univers. Et donc, lorsque on récupère des rayons cosmiques de ultra haute énergie sur Terre, qu'on les détecte, et qu'on regarde la direction d'arrivée dans le ciel, eh bien, la source, il n'y a pas de source, en fait, il n'y a rien. Parce que la particule, en fait, elle a pas fait, elle vient pas de là, elle vient de quelque part ailleurs, parce qu'elle a été défléchie. Donc, la signature d'un rayon cosmique de ultra haute énergie, c'est compliqué à interpréter. Par contre, un neutrino, c'est mieux. Neutrino, c'est quoi? Un neutrino, c'est une particule, on va dire, extraordinaire dans la foule des particules ordinaires. Je m'explique. Donc, c'est en fait le cousin des électrons. Et c'est, donc, en ce sens, c'est une particule connue, c'est une particule qui est dans ce qu'on appelle le modèle standard. C'est une particule bien connue des physiciens des particules. Et d'ailleurs, c'est une particule que vous connaissez bien parce qu'elle vous traverse tout le temps. Et là, chaque seconde qui passe, là, maintenant, tout de suite, et vous n'avez pas besoin d'aller dehors, chaque seconde, vous avez 100 000 milliards de neutrinos qui traversent votre corps. Et pourquoi c'est une particule extraordinaire? C'est parce que il faudrait que vous viviez 100 ans pour qu'un de ces neutrinos daigne interagir avec votre corps. En ce sens-là, c'est extraordinaire parce que donc, les neutrinos interagissent avec quasiment rien. Et ça, c'est super, enfin, c'est marrant. C'est d'ailleurs ce que Pauli, le physicien, a dit lorsqu'il a théorisé cette particule avant qu'elle soit en fait détectée. Il a dit « j'ai fait quelque chose de terrible, j'ai postulé l'existence d'une particule qui ne peut pas être détectée ». Et puis c'était sans compter la persévérance et la créativité des physiciens, puisque maintenant on détecte des neutrinos. On détecte des neutrinos, ceux qui vous traversent là, c'est ceux du Soleil. Ceux du Soleil parce que le Soleil est un réacteur nucléaire. Vous savez, c'est pour ça que ça brille. Il se passe plein de réactions nucléaires. Et à chaque fois qu'il y a des réactions nucléaires, il y a production de neutrinos. Et donc, le Soleil en produit. Lorsque vous allez sur des centrales nucléaires, ça produit des neutrinos. Enfin, voilà. Et quelque chose d'autre qui peut se passer, c'est un rayon cosmique, qui est un noyau atomique, noyau nucléaire, tout ça, qui se ferait casser la figure par de la lumière, de la matière ou quoi que ce soit, eh ben ça va produire un neutrino. Et ça va lui donner une fraction assez importante de son énergie qui va faire qu'un rayon cosmique de ultra haute énergie va donner naissance à un neutrino de ultra haute énergie. Et pourquoi c'est intéressant un neutrino de ultra haute énergie? Parce que, comme son nom l'indique, c'est une particule neutre. Ici, c'est neutre. C'est pas dévié par tous les champs magnétiques de l'univers. Ça veut dire que si on détectait un neutrino de ultra haute énergie et qu'on regardait dans la direction d'arrivée, là, on verrait la source. Et on pourrait, du coup, faire ce lien entre ce qu'on est en train de détecter et cet univers violent, là, ces explosions, ces fusions d'étoiles à neutrons et tout ça, qui sont en train de se passer. Ce qui est très compliqué avec les rayons cosmiques de ultra haute énergie. Donc, ce cinéma multisensoriel, c'est bien. Mais tous les messagers qu'on a ne parlent pas de la même façon. Et les neutrinos parleraient vraiment très très bien. Sauf que, comme je vous l'ai dit, c'est compliqué à détecter. En fait, les neutrinos, c'est bien aussi parce que c'est des pourvoyeurs de prix Nobel. Évidemment, c'est pour ça qu'on fait ça, nous. Des neutrinos solaires ont été détectés et ont donné lieu à des prix Nobel. Mince, c'était filmé, en fait. Et à plus haute énergie, donc ça vous en avez plein, mais à plus haute énergie, vous quittez le domaine des réactions nucléaires du Soleil et vous allez avoir des neutrinos qui sont produits par des explosions d'étoiles dans notre galaxie, par des explosions d'étoiles dans d'autres galaxies, etc. Et probablement des explosions très très violentes, comme des sursauts gamma, ou des choses comme ça, qui se produisent très loin. Et ça, c'est les neutrinos de ultra haute énergie. Et c'est ça qu'on voudrait voir, parce que c'est dans ces gammes d'énergie qu'on voit les sources les plus violentes. Il se trouve qu'à très 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 haute énergie, donc là, on est par rapport à ce que nous, on veut voir, c'est 1000 à 10 000 fois moins haute énergie, mais par rapport au Soleil, vous voyez quand même qu'on est à quasiment 1 milliard de fois plus haute énergie. On a, en 2013, détecté pour la première fois des neutrinos avec une expérience qui s'appelle Ice Cube, qui est un bloc de 1 km cube de glace instrumenté par des filins comme des guirlandes avec des détecteurs qui sont enfilés dessus et qui a vu donc le passage de neutrinos à l'intérieur de la glace. Donc ça, c'est au pôle sud. Très belle expérience, et qui a donc ouvert cette voie de la saveur, de goûter l'univers violent à partir de cette énergie en 2013. Donc quand je vous dis vraiment que ce côté multisensoriel, multimessager vient de démarrer, c'est pas des blagues, c'est vraiment que ça a commencé 2013, les premiers neutrinos de très haute énergie, 2015, les premières ondes gravitationnelles. On est en train d'ouvrir de nouvelles fenêtres, de détecter des nouveaux messagers de cet univers et d'avoir un bouleversement de notre compréhension de ce qui est en train de se passer à chaque fois qu'il y a des choses qui explosent. Et, sauf que, bon, on ne se contente pas de s'arrêter à une certaine énergie. Nous, on voudrait quand même aller plus haut, là. Et c'est là qu'on essaye de travailler depuis une dizaine d'années sur le projet GRAND, Giant Radio Array for Neutrino Detection, donc détecteur de radio de neutrinos à ultra haute énergie. Ce qui s'est passé, ce qui nous conforte dans notre projet, c'est que ce qui s'est passé là en février dernier, il y a eu une détection vraisemblable d'un premier neutrino de ultra haute énergie avec un détecteur en Méditerranée qui s'appelle KM3net, kilomètre cube net. Donc même un peu le même genre de système que Ice Cube. Et là, vous le voyez, c'est des filins qui sont instrumentés par des détecteurs, des capteurs, et qui sont donc à 3500 mètres de profondeur dans la mer Méditerranée. Et au passage d'une particule, qui est vraisemblablement un neutrino de ultra haute énergie, énormément de capteurs, plusieurs milliers de capteurs se sont allumés. Et donc, cet instrument n'était en fait pas dédié, il était trop petit normalement pour détecter des neutrinos de ultra haute énergie. Et pourtant, c'est arrivé, il semblerait que ce soit arrivé, seulement... Ce détecteur n'étant pas dédié à la détection des neutrinos de ultra haute énergie et ayant d'autres objectifs, il n'a pas pu. Il y a pas mal de zones d'ombre, et en particulier, il y a une grosse inconnue qui est quelle est la source de cette particule, parce que en fait, quand on regarde dans la direction d'arrivée de ce neutrino, on ne voit rien. Il n'y a pas de source puissante qui aurait explosé. Donc, c'est assez curieux. Mais ça prouve que probablement ces neutrinos de ultra haute énergie existent et qu'il va falloir construire plus grand, plus ambitieux pour aller les chercher et, de façon propre. Donc ça, c'est l'idée de GRAND, qui est un détecteur radio. Pourquoi la radio ? Donc depuis tout à l'heure, je vous dis que les neutrinos, c'est très difficile à détecter. Et pourtant, on les détecte. Mais comment ? Parce que les neutrinos vont, s'ils traversent assez de matière, assez de glace, assez d'eau, ou assez de roche, en l'occurrence ici 30 km de roche, ils vont à un moment quand même interagir, ils vont collisionner avec la roche. Et ce qui se passe lorsque une collision comme ça se produit, c'est que donc, le neutrino va produire une particule secondaire, ici une particule qu'on appelle tau. Et cette particule secondaire, le tau, va sortir dans l'atmosphère, dans l'air, sortir de la montagne, sortir dans l'air. Et comme cette particule-là a un temps de vie limité, c'est-à-dire qu'à un moment, elle se désintègre, elle se casse en plein de morceaux, Eh bien, elle va, c'est ce qui va lui arriver. Elle vole comme ça, pouf, pouf, et puis à un moment, pouf, elle se casse en plein de morceaux. Et tous ces morceaux vont interagir avec les molécules de l'atmosphère. Et ainsi, on va créer d'autres particules secondaires, tertiaires, etc. Une gerbe, une cascade de particules qui vont toutes récupérer un tout petit peu de l'énergie de la particule initiale. Et c'est à l'intérieur de ce qu'on appelle cette gerbe atmosphérique, on va avoir des électrons et des positrons, enfin en tout cas des particules chargées plus et moins. Sauf que la Terre est magnétisée, comme vous savez, la boussole, tout ça. Donc, les particules chargées plus vont aller d'un côté, les particules chargées moins vont aller de l'autre côté. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on sépare des charges ? On crée un courant électrique, c'est ce qui la lumière là. Et un courant électrique en mouvement, ça crée un champ électromagnétique, c'est-à-dire de la lumière. Et il se trouve que ce champ électromagnétique est puissant en radio, dans la gamme radio. Et donc, si on plante des antennes, là où ce signal se développe, on va pouvoir le détecter. On va pouvoir détecter un tout petit picot. Et donc, pourquoi la radio ? Parce que, tout à l'heure, vous avez vu les neutrinos, là, de ultra haute énergie. Ça, en fait, c'est le nombre de neutrinos. Je ne vous ai pas expliqué cette figure, excusez-moi. Mais donc, ça, c'est le nombre de neutrinos en fonction de leur énergie. Donc, pour le Soleil, il y en a plein. Et plus on va à haute énergie, c'est logique, et plus c'est difficile d'en produire, parce que produire des choses énergétiques, c'est compliqué. Et là, vous voyez que quand même, on est à un flux, enfin un nombre vraiment très faible. On a quand même, on est en train de parler d'un flux, donc d'un nombre de neutrinos de 0,01, 0,01 particules par kilomètre carré par siècle. Donc c'est très faible. Donc, il faut construire quelque chose de gigantesque. C'est pour ça que KM3Net, c'était étonnant. C'est 1 km³ dans l'eau. Enfin, c'était assez étonnant que ça détecte quelque chose. Mais pourquoi pas ? Donc, GRAND vise à déployer des antennes sur 10 000 km² fois 2 ou fois plusieurs, et en mettant 10 000 antennes dans chacun de ces... Donc, une antenne par kilomètre carré. Donc, comme ça, on couvrirait des surfaces assez grandes pour avoir une chance de détecter ces neutrinos. Et pour faire ça, pour pouvoir couvrir de très grandes surfaces avec des instruments, il faut quelque chose de robuste, de multipliable facilement et de pas cher. Parce que 10 000 antennes, enfin, ou 10 000 détecteurs, ça devient vite cher. Alors la radio, c'est bien parce que c'est... des bouts de métal quand même. Enfin, la radio, enfin, les antennes radio, ça ressemble, enfin, je vais vous montrer, hein, mais c'est vraiment très simple. C'est des bouts de métal. C'est même pas des paraboles compliquées. Et l'électronique aussi est très simple. Donc on va pouvoir avoir un coût très faible par antenne et déployer facile. Et en plus, c'est facile à déployer et c'est robuste. Donc c'est idéal pour ce genre de manip. Donc voilà, l'idée c'est de faire. Ça sur deux hémisphères du globe. Et donc, comment est-ce j'en suis arrivée à travailler sur GRAND. Alors, je remonte un peu dans le temps, donc 2014, donc on parle toujours de la décennie passée. Hein. Ici, à l'IAP, dans ce qu'on appelle le forum, là où on prend le café, et bien, mon collègue Olivier Martineau, qui travaille à Sorbonne Université, est venu me voir pour prendre un café. Et donc on discute, il me dit, moi je voudrais, j'ai cette idée de planter plein d'antennes, dans des montagnes en Chine et de détecter des neutrinos de ultra haute énergie, mais je ne sais pas si ça va intéresser quelqu'un. Et il se trouve que moi, en 2014, j'étais jeune recrutée à l'IAP et que j'inventais des modèles théoriques pour essayer de calculer, par exemple, combien de neutrinos allaient provenir de fusion d'étoiles à neutrons, de différentes sources. Et j'étais un peu désespérée parce que à chaque fois que je prédisais quelque chose, que j'avais un résultat qui sortait de mon ordinateur, là, le nombre de neutrinos que je voyais sortir était mais complètement dans les choux par rapport à, aux instruments qui étaient prévus, envisagés par la communauté. Donc en fait, il n'y avait rien. Enfin, je prédisais des choses, mais ça ne servait à rien, parce que de toute façon, on n'allait jamais les détecter. Et donc Olivier arrive et me dit, voilà, j'ai cette idée, machin, et puis il monte une courbe et je vois que ça va toucher les prédictions que moi, je suis en train de faire. Donc on arrive, donc lui, il arrive par le haut avec cette courbe de sensibilité et moi par le bas avec cette courbe de nombre de neutrinos. Et on se rejoint et je lui dis, mais c'est génial ton histoire, go! Et donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Bah, on a fait, en 2015, on a réuni plein d'amis, hein, des collègues, au LPNHE, le laboratoire de physique nucléaire et des hautes énergies, et donc à Jussieu. Et donc, on fait ce premier atelier fondateur avec plein de gens jeunes et motivés, pas que jeunes d'ailleurs, mais enfin seniors, juniors, tout ça. Et on accrète, donc au début on était deux, et on passe à 20, et puis ensuite on continue, on brasse donc des idées de comment faire ça, comment déployer nos antennes, comment construire nos antennes, combien il en faut. Au début, Olivier il se disait oui, on va en mettre, je sais pas, quelques dizaines de milliers. On s'est dit en fait non, il en faut 200 000. Enfin voilà, on affine tous les chiffres, on travaille sur la technique, l'électronique, etc. Tout ça dans des labos, dans des bars, dans des cantines, des distilleries, dans le monde entier. C'est comme ça qu'on fait la science vraiment, dans des bars. Ouais. Mais vraiment, et dans le désert. Et c'est là qu'on a les idées les plus fun et qui finalement sont peut-être les plus ambitieuses et qu'on finit par concrétiser, parce qu'être créatif c'est bien, mais derrière on les travaille et on leur donne forme. Et voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on est arrivé avec ce projet Grande qui aujourd'hui rassemble plus de 130 personnes dans le monde et qui a ses premières antennes, ses premières 50 antennes qui sont en train de marcher dans le désert de Gobi. Donc là, je vous emmène dans le désert en question. Donc vous avez vu juste avant la ville la plus proche qui est Dunhuan, qui est une ville. Donc on va dézoomer un peu. Donc c'est là, hein, c'est là qu'on est vraiment, au milieu de nulle part. Dunhuan, c'est une ville très touristique. C'était la dernière ville sur la route de la soie avant l'entrée dans le désert. Et donc vous voyez, ça c'est quand on va ici, on va jusqu'à quelque part à Beijing ou Xi'an, voilà, et puis ensuite on va jusqu'à Dunhuan, et ensuite on prend des 4x4 et on roule sur des routes et surtout des pistes, des pistes dans le sable pendant 3 heures. Fred y était il y a encore 2 semaines pour installer des antennes. Et voilà, donc ça c'est la forme de notre premier prototype. Donc l'idée là, ça ne va pas être tout de suite de détecter des neutrinos, mais c'est de montrer que cette technique de détection radio marche. De dire, on peut, avec des antennes radio, trouver ces toutes petites impulsions, tous ces tout petits signaux, et les collecter et dire qu'il y a une particule cosmique qui est passée. Et là, on va travailler en fait avec des rayons cosmiques, qui sont des particules qu'on connaît très bien, qu'on détecte régulièrement, et qui sont tellement abondantes qu'on est sûr avec nos antennes de les détecter, alors que les neutrinos, c'est des particules qu'on n'a pas encore détectées à ultra haute énergie, donc c'est plus compliqué. Donc pour valider la technique de détection, on va faire ça sur les rayons cosmiques. Donc là, on a, voilà, c'est ça qui est... chaque point ici correspond à une antenne, et donc c'est le format de du détecteur qui a été approuvé par les autorités locales dans la province de Gansu. Donc voilà, vous avez le beau document qui est signé. Et puis voilà, comme je vous disais, donc on est situé dans cette ici, ça s'appelle Shaodushan, qui signifie petite montagne. Et je vous raconte pas le vertige que c'est lorsqu'on est là-bas de voir toute cette voie lactée qui se déploie très loin de toute pollution lumineuse, et d'être un peu en connexion comme ça avec le cosmos. Donc je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble, ces antennes. Donc ici, vous avez donc un vlog qui a été réalisé par un bout de vlog qui a été réalisé par un post-doctorant de notre équipe à Paris. Donc là, c'était un test en envoyant des signaux avec ce qu'on appelle un beacon, une autre antenne. Et donc ça, c'est nos antennes. Vous voyez que voilà, c'est ça le désert de Gobi. C'est vraiment très grand et plat. Enfin, plat, non, mais enfin, si, assez plat d'ailleurs. Et assez aliénant. Et donc là, c'était en octobre dernier quand on a travaillé sur un premier batch de 35 antennes. Donc ça, c'est Pablo Correa, justement l'auteur du vlog. Et donc ce que vous voyez, tu vois, c'est que donc nos antennes sont comme ça, elles sont très élégantes, je trouve. Donc on a ça va trop vite. On a une attendez, je vais hop. Voilà. Un mât de 3,5 m. Avec des, quand je vous dis que c'est des bouts de métal, c'est vraiment ça. On appelle ça des antennes papillons, c'est le jargon. Et c'est vrai, c'est assez joli. On a des bras qui regardent nord-sud, est-ouest et vers le zénith. Et donc on a un relais Wi-Fi qui nous permet de récupérer nos données. On a une boîte ici avec triangulaire avec un panneau solaire qui sert de couvercle. Un relais GPS ici pour indiquer notre position. Et à l'intérieur de ce couvercle, vous avez un boîtier électronique qui est dans une boîte en métal qui fait ce qu'on appelle cage de Faraday pour éviter que tout le bruit radio émis par notre électronique ne sorte pas de la boîte. Et donc ici, vous avez la connectique Wi-Fi, le Wi-Fi, et puis différentes composantes que Fred serait mieux à même que moi d'expliquer. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que j'ai encore du temps là ? Oui ? Super. Qu'est-ce qui se passe, juste pour entrer un petit peu dans la physique, lorsque vous avez un signal de rayons cosmiques ou de neutrinos qui arrivent sur une antenne? Ça ressemble à ça. Donc nous, ce qu'on récupère sur nos ordinateurs et qu'on regarde, c'est ça. C'est-à-dire que notre antenne va... Donc il y a des électrons qui vont vibrer à l'intérieur de ces bras. Et ici, donc, on a une première électronique. Et ensuite, à l'intérieur de cette électronique, on va pouvoir enregistrer des 0 et des 1, en fait, des amplitudes de signal. Et donc, vous voyez que ça fait des zigouguis, donc ça, c'est le temps. Et donc, on enregistre des trucs qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent, et puis pouf, un petit signal. Et donc là, vous avez, c'est assez intéressant, c'est une expérience antérieure sur laquelle Olivier Martineau avait travaillé et qui lui a donné vraiment l'idée de faire grande. Vous avez ces pics qui sortent de cette espèce de bruit là qui fait et je vais vous montrer tout à l'heure, mais cette espèce de zigouigoui là, c'est en fait le bruit de radio de notre galaxie, parce que notre galaxie émet aussi de la radio et c'est ça qu'on détecte avec nos antennes. Donc ça c'est cool. Et puis lorsque on a plein d'antennes, donc chacun de ces chaque pixel ici, on pourrait, ça c'est un réseau fictif, on pourrait imaginer que on ait un réseau très très dense avec plein d'antennes. Et puis on peut imaginer aussi qu'on en enlève, mais si on avait un réseau très dense avec plein d'antennes, chaque pixel correspondant à une antenne, eh bien on aurait donc lorsque un rayon cosmique arrive au sol, on va se dessiner un très bel anneau comme ça. Donc en jaune c'est le signal le plus fort. Le signal radio le plus fort. Et donc vous voyez que du coup la signature qu'on obtient d'une particule qui arrive est très caractéristique. C'est pas juste un pâté en fait, c'est vraiment un très bel anneau qui est vraiment dû donc à cette gerbe atmosphérique qui se propage et qui génère cette émission électromagnétique. Voilà, j'espère que je vous ai pas trop perdu, mais donc juste pour vous dire aussi, c'est ce que j'évoquais à l'instant, donc notre galaxie émet en radio, et il se trouve que comme on est dans un bras de la galaxie, on voit le cœur de notre galaxie, c'est lui qui émet très fortement en radio. Et lorsque la Terre tourne, on va voir le cœur de notre galaxie monter et descendre, un peu comme le Soleil ou la Lune. Non, comme le soleil. Et donc, c'est un peu... Non, oui, voilà, comme un objet céleste qui est fixe. Et donc, la Terre tourne et donc ça va, ça vient sur une journée. Et donc, c'est exactement ce qu'on détecte sur nos antennes dans Grande. C'est qu'on voit ce bruit radio qui est en moyenne assez faible et qui ensuite remonte. Parce que là, c'est lorsque le cœur de la galaxie entre dans le champ de vision de nos antennes, et puis ça redescend. Donc ça, c'est une belle preuve que nos antennes voient quelque chose et sont en train de fonctionner. Ça, c'était le travail d'un étudiant qui a travaillé dans notre équipe à Paris. Nos antennes voient aussi, là, ça, vous allez peut-être rigoler, mais en fait, non, c'est vraiment très, très important. Nos antennes voient passer des avions. Et c'est très chouette. Enfin, c'est très chouette. Les avions émettent en radio, émettent des bips, des signaux radio, et ça nous permet de calibrer correctement nos antennes et de bien voir que, d'ailleurs, parce qu'on a on sait très bien quand est-ce que les avions passent, leur trajectoire. Maintenant, même grâce à Fred, on a un instrument qui est installé qui nous permet de voir ça sans même forcément passer par des sites web. Sur site, et donc on peut vérifier que ce qu'on mesure dans nos antennes, le passage des avions, correspond bien à ce que, enfin, les directions qu'on reconstruit dans le ciel, etc., est bien correcte par rapport à la trajectoire des avions. Et enfin, donc ça c'est préliminaire et c'est quasiment secret. Donc nos antennes détectent des candidats de particules cosmiques. Ça, c'est lorsqu'on aura plein de candidats de particules cosmiques, ce qui est un peu déjà le cas, mais voilà, qu'on pourra le publier et le dire haut et fort, c'est là où on pourra dire, voilà, nos antennes fonctionnent très bien. C'est pas juste que nos antennes fonctionnent très bien, la technique de détection radio des astroparticules fonctionne très bien. Je voudrais en fait juste expliquer pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un prototype pour valider cette technique de détection. Quel est le challenge et pourquoi ça nous prend du temps. La technique de détection radio, c'est traître parce que c'est pas comme la lumière, on sait qu'il y a de la pollution lumineuse ou pas, on se met dans du noir et donc on voit la lumière. En radio, c'est assez compliqué parce que où qu'on aille, même dans les déserts les plus reculés, dans le désert de Gobi ou la Pampa en Argentine, on est toujours pollué par du bruit radio humain, toujours. Et on ne le voit pas même, en plus. Il faut vraiment avoir des instruments et le mesurer. Et on va voir qu'il y a plein de pics qui surgissent tout le temps. Parce qu'on a un téléphone portable, parce qu'il y a une route à 10 km, parce qu'il y a une mine à 20 km, parce qu'il y a un avion qui passe. En fait, il y a de la pollution radio partout. Et évidemment, c'est pire en ville, donc c'est pour ça qu'on va dans des déserts. Mais pour détecter ces tout petits signaux, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ça là, pour détecter ces tout petits picots au milieu, enfin là c'est bien, hein, c'est un endroit propre, il n'y a que du bruit galactique, mais en fait si là vous faisiez une mesure comme ça, vous n'auriez jamais un pic comme ça, ça n'apparaîtrait pas, on aurait des espèces de zigzags monstrueux, on serait noyé dans du bruit. Et même si on va dans le désert de Gobi, on a tout le temps des machins qui ressemblent à ça, des pics, tac, 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 qui apparaissent. Et donc toute la question c'est est-ce qu'on est capable de faire la distinction entre un signal cosmique de particules et un signal qui vient de la voiture qui est passée, de l'avion, d'une ligne électrique, etc. C'est ça tout le challenge. Et d'ailleurs, ça fait 10 ans qu'on avait toute une communauté qui nous disait « mais vous n'y arriverez jamais, c'est bien trop compliqué, c'est beaucoup plus, c'est aussi compliqué que de faire des interféromètres, voilà. Vous serez toujours noyé dans du bruit, et donc les systèmes électroniques ne répondront jamais, vous n'y arriverez jamais ». C'est souvent ce qu'on dit, et puis en fait, on est en train d'y arriver. Donc je ne vais pas vous faire... c'est Yolane Lavoisier, qui est doctorant dans mon équipe ici, qui a trouvé plusieurs candidats, mais Donc là, je vous en montre un. Donc là, vous avez ces espèces de zigouillis et vous voyez que donc là, c'est plusieurs antennes qui sont déclenchées en même temps, qui ont dit coucou, on a vu quelque chose et qui ont fait et qui nous ont permis d'enregistrer ces données-là. Et donc on voit que au même moment sur ces différentes antennes, il y a eu un petit signal qui est apparu, ce qui est plutôt bon signe parce que ça veut dire que voilà, il y a peut-être une forme d'anneau. Et en fait, il y a voilà, là vous dites mais non, mais ça ressemble pas à un anneau, mais en fait, mais quand même si, c'est pour nous c'est très bien. Il y a eu ça qui s'est allumé d'abord, ça. En fait, c'est vraiment ça, c'est tous les numéros, c'est des antennes. Et ce qui il y a eu une gerbe de particules qui est arrivée de ce côté-là et c'est dans l'autre sens, qui a arrosé notre détecteur et qui a allumé successivement nos antennes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui ressemble très fortement à un rayon cosmique. Et puis, il y a d'autres paramètres qui font que c'est très vraisemblable. Voilà, donc on est en train d'y travailler, mais ça sent plutôt bon. Et voilà, donc... probablement bientôt vous entendrez que la technique de détection radio marche et du coup on pourra passer à l'échelle suivante, c'est-à-dire déployer beaucoup plus d'antennes. Là on était sur une cinquantaine d'antennes. Pour le prototype on compte en déployer 300 environ, mais bon, même avec une cinquantaine d'antennes on peut déjà valider la technique. Et puis ensuite il va falloir passer donc à 1000, 10 000 antennes. Et pour faire ça, on voudrait le faire, comme je vous le disais, dans deux hémisphères. Et l'autre hémisphère, ce sera probablement en Argentine. Vous dites peut-être, ok, c'est peut-être un défi, c'est peut-être compliqué, mais pourquoi ça leur a pris 10 ans de mettre 50 pauvres antennes et de regarder des pulses? En fait, il s'est passé pas mal de choses entre 2015 et 2025. Pour la petite histoire, en 2019, fin 2019, on avait 100 antennes de prêtes produites qui étaient prêtes à être déployées sur site. On avait identifié un site dans le désert de Gobi et nos collègues chinois avaient loué des machines pour aplanir le sol et y aller. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et bien donc, entre 2015 et 2025, les rapports avec la Chine se sont durcis. Il y a eu la guerre. Il y a eu une pandémie, donc ça c'est ce qui s'est passé et qui a fait que pendant 5 ans, nos antennes sont restées dans un hangar. Et c'était dur. Et puis aujourd'hui, il y a un raidissement politique, enfin, c'est assez compliqué tout ça. Mais bon, donc voilà, c'est pour ça que ça prend longtemps. La science, ça prend longtemps. Des grands projets, ça prend longtemps, ça prend du temps. Et il faut de la patience de tous les côtés. Mais aussi, on est dans des projets comme ça, qui en plus sont installés dans différents endroits du monde. On est tributaire de la géopolitique. Et donc oui, ça c'était un message que j'avais envie de faire passer, qui est que malgré tous ces problèmes géopolitiques qui ont surgi, moi j'ai trouvé ça très chouette qu'au sein de la collaboration grande qui grossissait, on était toujours quand même... entre collègues, entre collaborateurs, malgré les difficultés imposées par nos tutelles, par nos instituts, la géopolitique, on se retrouvait justement dans des bars, dans des cafés, dans des cantines, et on continue à discuter science, mais aussi vie, et puis même politique. Et on se rejoint sur le fait que nous, on regarde quelque chose de neutre, qui est le ciel. Et on est motivé par cette même envie de connaître, de comprendre la science fondamentale. Et en ce sens-là, je pense que c'est quelque chose qui est assez essentiel encore aujourd'hui à préserver, cette science fondamentale. C'est que ça nous permet encore de tendre des mains entre des pays qui sont divisés. Quoi. Voilà, alors du coup... Malgré tout, bon, c'est bien, on s'entend super bien avec nos collègues chinois et ça se passe très très bien. Mais même eux, lorsqu'il y a eu cette pandémie et qu'à la fin on se disait mais qu'est-ce qu'on fait ? On s'est dit on va peut-être ouvrir une deuxième porte sur notre expérience et on va aller en Argentine. Donc c'était la fin de la pandémie en Argentine. Et pas en Chine encore, parce que ça continue encore un an, presque un an et demi après. Et avec mon collègue Olivier Martineau et un collègue argentin, on est parti masqué sur aller explorer la pampa ici dans la province de San Juan. On a été très bien accueillis et on a vu donc un endroit où on pourrait installer notre prochain détecteur, donc la phase suivante de Grande. Et donc le prototype était dans le Gobi. Là, on travaillerait sur la R&D de la phase suivante de mise à l'échelle de Grande. Donc 1000 à 10 000 antennes. Et puis ensuite, l'idée, ce serait que ce soit dupliqué de nouveau en Chine pour couvrir deux hémisphères. Voilà, donc ça, c'est l'idée c'est ce qu'on va faire dans les 5 prochaines années. Et donc, comme je vous le disais, on est plus de 120-130 membres de 14 pays. Et la France est très motrice, comme je vous le disais. C'est Olivier Martineau et moi-même qui avons fondé ce projet, mais en fait aussi avec notre collègue Champing Wu, qui était 5 ans en France et qui est vraiment quelqu'un d'extraordinaire et qui est donc qui travaille en Chine au NAOC, à l'Observatoire national de Beijing. Et donc on est trois porte-parole et voilà, avec une très belle dynamique. Je voulais aussi vous dire, si j'ai 2 minutes, j'ai 30 secondes, que Grande est moderne aussi dans le sens où on se soucie de notre impact environnemental. Ça, c'est quelque chose qui nous a travaillé assez tôt, qui continue à nous préoccuper. Donc, on a signé une charte pour travailler sur différents points qui sont, donc, quand on monte des expériences comme ça, les points principaux qui ressortent, qui peuvent avoir un impact environnemental, c'est les missions, conférences sur le terrain, etc. Le numérique, donc les transferts de données, le stockage, les simulations numériques, et bien sûr l'équipement, donc tout ce qui est antennes, etc. Et donc très tôt dans notre expérience, on était les pionniers à faire notre bilan carbone en tant que grande expérience de physique. Et donc ensuite, beaucoup de manips nous ont emprunté nos outils. Mais donc oui, dans le bilan carbone, ce qu'on a repéré, c'était que avec notre détecteur ultime, on aurait surtout un impact fort qui venait de l'équipement, donc les antennes, le nombre d'antennes et le numérique. Donc c'est là-dessus qu'on essaye de travailler. Et quand on a identifié ça, une autre étude qu'on a faite, et donc ça c'est vraiment avec des spécialistes qui sont super, qui ont travaillé avec nous, des chercheuses, spécialistes en analyse cycle de vie et en bilan carbone, qui ont donc travaillé aussi sur une analyse cycle de vie. Et ce qu'on a repéré, c'était que, par exemple, parce que bon, c'est intéressant de se dire qu'on pollue. Ce qu'on va émettre dans Grande, au niveau du bilan carbone, c'est de l'ordre de 1000 voitures par an. La production de 1000 voitures par an. Donc on peut se dire, c'est beaucoup ou pas beaucoup? Est-ce que du coup, on s'arrête de faire de la science? C'est une bonne question. Et ce qu'on a pu voir, par exemple, du coup, sur l'analyse cycle de vie, c'est que des changements assez triviaux, comme changer d'alliage pour notre acier, l'acier de la structure de notre antenne, pouvait avoir un impact de 68% de moins sur notre empreinte. Donc, en ce sens-là, il y a des choses à faire. Et donc on peut, comme ça, travailler sur différents postes pour essayer de réduire notre impact carbone. Voilà, donc ça aussi, en ce sens-là aussi, je pense que c'est plutôt porteur d'espoir ce qu'on fait. Je vais juste vous laisser sur... ça, c'est un très beau film, très contemplatif, et qui vous plonge dans le désert de Gobi, qui a été fait par Jean Mouette. Et donc là, vous voyez Olivier et moi en train d'épiloguer sur je ne sais quoi. Je ne sais pas, peut-être qu'on disait du mal de Jean. Et donc je vous invite à le voir, il est sur YouTube. Et en fait, je vais surtout vous laisser là-dessus. Donc si vous voulez un peu approfondir tout ce que je vous ai dit aujourd'hui et avoir le roman de cet univers violent, je vous invite à aller lire ce livre qui est sorti en janvier, édité par un super éditeur. Qui sera donc en vente par une super libraire. Je serai ravie de vous le dédicacer si vous le souhaitez. Voilà, merci beaucoup.
Merci beaucoup, Kumiko. Donc, l'univers est violent, mais malgré tout, on est encore en bon état ce soir, après avoir écouté ça pendant une heure. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et puis, il y a quelques questions aussi sur YouTube que je vais vous transcrire après. Mais d'abord, ceux qui sont là, qui a une question? Bon, je vous laisse réfléchir. Voilà, en voilà une.
Bonjour, merci pour cette conférence qui était passionnante.
Merci.
Certains projets scientifiques ont une durée de vie. Quelle est la durée de vie de celui-là? Et qu'est-ce qui se passera à la fin avec les antennes?
Excellente question. Donc, ce genre de projet, on essaie de les faire durer au moins 10 ans, voire 20. Et parce que comme c'est robuste, ils peuvent continuer à prendre des données, peut-être même on peut les agrandir, etc. Lorsque on terminera l'expérience, bien en amont, il faudra, je pense que voilà, bientôt, il faudra qu'on réfléchisse à une phase de décommissioning, donc le moment où on enlève les antennes, effectivement, et donc à recycler, ce qu'on en fait. Effectivement, c'est dans nos tablettes.
Qu'est-ce que c'est comme métal?
C'est de l'acier inoxydable. Donc ça se recycle bien.
Oui, ça doit pouvoir se servir à autre chose après. Ouais. Oui.
Il y a des batteries aussi, des panneaux solaires, mais tout se recycle.
D'autres questions?
Mais ça a un coût.
Bonsoir. Je me demandais, vous avez parlé de pollution humaine magnétique. Et je me demandais si, à l'instar de Hubble ou James Webb, c'était possible de s'exporter dans l'espace et en particulier sur la Lune, vu que vous avez besoin d'une masse rocheuse, si j'ai bien compris. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable dans le futur pour améliorer les détections?
Merci. C'est aussi une excellente question. Il y a des projets de détection détection radio associés à la Lune. Alors, le problème de s'installer sur la Lune, c'est qu'il n'y a pas d'atmosphère. Donc, pour pouvoir faire des gerbes atmosphériques, c'est plus compliqué. Par contre, il y a des projets en fait, on se sert de la Lune comme morceau de roche dans lequel les neutrinos passent et interagissent et génèrent des gerbes. Et ensuite, on peut les observer avec des satellites dans l'espace. Donc ça, c'est une option. Il y a plein de projets par rapport à la Lune. Peut-être que vous avez lu, il y a un livre de Joe Silk, je crois, qui est autour de la Lune, des projets spatiaux autour de la Lune.
Oui, des projets de... Il y a un livre de Joe Silk, effectivement, ouais. qui travaille aussi à l'IAP une partie de son temps et qui a écrit un livre sur les projets going to the moon, mais
c'est quelque chose.
Observer à partir de la Lune, l'idée étant que si on place des télescopes sur la face cachée de la Lune, il y fait noir tout le temps et donc on peut observer 24 heures sur 24 et il n'y a pas de pollution, donc voilà. Après
on a
facile à réaliser,
c'est ça. Et je dirais que là, vu le niveau technique où on en est, c'est quand même plus sûr de le faire dans le Gobi, c'est moins loin.
Oui, et puis les antennes sont quand même aussi moins compliquées à construire, oui, voilà. C'est sûr. Une autre question? Alors, je vais en passer, dans le chat, il y a aussi quelques questions. Donc, il y a une personne qui dit « Détecter, c'est bien, mais quelles sont les applications pratiques pour le commun des gens ?» C'est comme écouter le vent. C'est poétique.
Détecter, c'est bien. Alors, les applications pour le commun des mortels, comme nous d'ailleurs, on ne sait pas. Hein. On ne sait jamais. C'est toujours la question de la science fondamentale. C'est comme on cite toujours l'exemple de la relativité générale. Einstein, un jour, écrit cette équation que personne ne comprend et qui est très compliquée et qui semble être complètement théorique. Et puis aujourd'hui, s'il ne l'avait pas inventée, on se tromperait de 100 mètres sur notre GPS, voire plus, et du coup, on serait dans les choux. Donc, est-ce que détecter des particules, des neutrinos de ultra haute énergie, des rayons cosmiques de ultra haute énergie, est-ce que ça nous permet donc de comprendre comment fonctionnent ces sources, ces explosions? Ça nous permet de comprendre des mécanismes physiques qui sont à l'origine de ces explosions. Donc, comment on génère de l'énergie? Comment on génère de l'énergie? Ça peut être une question qui nous intéresse tous. On est quand même dans des configurations très spéciales. Les plasmas, les sources dans l'univers, c'est des régions extrêmes qui ne sont pas forcément reproductibles sur Terre. Mais je pense que ça peut toujours nous donner des idées sur, sur la production d'énergie, l'accélération de particules, donc la production d'énergie. Bon, je pense que on ne sait jamais, il faut rester créatif.
Oui. Tu prêches une convaincue, si c'est moi que tu regardes. Question. La tendance, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour tout et n'importe quoi, mais est-ce qu'elle peut être utile pour réduire le bruit ou trouver efficacement des corrélations dans les signaux?
Ah oui, mais je recrute cette personne-là. Bien sûr, oui.
Bon, alors envoyez votre CV à Kumiko.
Non, c'est... Oui. Bien sûr, on a toute une équipe qui travaille là-dessus sur la réduction, sur l'identification de signal dans le bruit avec de l'intelligence artificielle et aussi de l'identification de ces empreintes en forme d'anneau. Ça c'est plus des identifications d'images. Pour essayer de remonter aux caractéristiques de la particule originelle. Le machine learning, l'apprentissage profond est très, très en vogue, effectivement, et en physique et aussi dans notre collaboration.
Je continue sur les questions sur YouTube, si vous ne levez pas la main. Alors, une autre question intéressante, la forme du pavage du réseau des antennes a-t-elle une importance? Comment est-elle optimisée?
C'est vraiment, les gens sont...
Ah, il y a des questions.
C'est vraiment super. Hein. Oui, en plus, non, mais c'est top parce que cette optimisation, c'est moi qui l'ai faite. Ça tombe bien. Non, pas que moi, mais avec Aurélien Benoît Lévy et Mathias Touellos. Ce pavage est très important. Il est optimisé sur différentes caractéristiques. Alors, d'une part, il y a la forme, il y a la distance entre les antennes. Et donc, cette distance va nous permettre de détecter des particules de plus ou moins haute énergie, parce que les particules de plus ou moins haute énergie donnent des anneaux comme ça, plus ou moins gros. Et ensuite, la forme, c'est là, pour le coup, c'est plus une question d'optimisation de nombre d'antennes sur la surface couverte. Un peu. C'est-à-dire que là, si on prenait un pavage, je crois que c'est technique à ce que je dis, non ? Pardon. Je ne sais pas si on arrive. Donc si on prend un pavage triangulaire, on s'est rendu compte. Bon, excusez-moi. Hop. Facile. Voilà. Si on fait un pavage,
les livres sont...
Voilà. Donc là, on a un pavage hexagonal avec le centre instrumenté aussi. Et si on, par exemple, on peut se demander si ce qui se passe si on enlève ce enfin, bon, je vais pas rentrer dans la technique, mais en gros, oui, il faut trouver des formes qui sont les plus adaptées pour pouvoir jouer avec nos dessins d'anneaux au sol et avoir le moins d'antennes possible pour couvrir le plus de surface et quand même détecter ce qu'on veut. Voilà. Mais ouais, c'est assez fin. On fait plein de simulations pour ça et on a joué sur pas mal de paramètres. Et c'est là-dessus qu'on est tombé.
Alors, une dernière question sur YouTube et puis ensuite je vous passe le micro, monsieur. Dans le film 2012, des neutrinos réchauffent le noyau de la Terre. Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est une fiction ? Alors, je ne sais pas, je n'ai pas vu le film. Donc
je n'ai pas vu le film non plus.
Ah bon, alors on est un peu coincé.
Les neutrinos chauffent la Terre, ça m'étonnerait quand même, parce que pour le coup, comme je disais, les neutrinos, ça traverse un peu tout, donc c'est très difficile pour des neutrinos de déposer de l'énergie. Il faudrait qu'il y ait une densité monstrueuse. Non, je pense que ce n'est pas possible.
Oui, si j'ai bien compris, 10 000 détecteurs, ça fait à peu près, donc c'est une surface de 100 km par 100 km, c'est ça ? À peu près ?
Oui.
Donc c'est bon, c'est relativement petit, on va dire, par rapport au globe terrestre. Mais ma question, c'est pourquoi est-ce qu'il en faut deux ? Pourquoi est-ce qu'il en faut un aussi dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud ?
Attendez, hop là. Donc... Effectivement, 10 000 km², c'est ça, c'est le petit rectangle foncé. Et en 2015, quand on s'est excité et qu'on a monté le projet, pendant très longtemps, on se disait on va faire 200 000 km², ça va être ça. Juste pour, et puis après, il y a eu ce que je vous ai montré, la guerre, tout ça, tout ça. Et puis on s'est dit, on va faire autrement. Donc, votre question, c'était quoi ? Pardon. Ah, c'est ça. Voilà. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de voir deux ciels. On n'a pas les mêmes objets dans l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud. Et donc d'avoir deux instruments sur deux hémisphères va nous permettre d'avoir une couverture plus complète du ciel. Et puis aussi d'avoir deux instruments à deux endroits différents, ça nous permet aussi d'être... si jamais on a un objet qui explose... Il faut, pour que l'objet rentre dans le champ de vue de l'un, il faut attendre que la Terre tourne. Et donc, si on a deux endroits comme ça, là, et en Chine, et voilà, là et là, ça nous permet d'avoir une couverture en temps plus importante. Voilà.
Bon, une dernière question.
C'était moi. Oui. Bonsoir. Si j'ai bien compris, les détecteurs comme KM3Net, ils prennent les données dans un volume. Et là, celui-ci le prend sur une surface. Du coup, j'imagine que pour recalculer la gerbe, ça ne fonctionne pas du tout pareil. Et je me demandais, qu'en est-il de la concurrence du coup entre les différentes techniques ? Est-ce que c'est une question de coût par rapport à la taille du détecteur ou est-ce que c'est plus pertinent ?
Il n'y a pas tellement de concurrence entre KM3Net et Grande, parce que, enfin, c'est très pertinent ce que vous dites. Effectivement, KM3Net est un détecteur plus compact qui vise à détecter des particules de plus basse énergie qui sont plus nombreux. Comme ils sont plus nombreux, ils peuvent se permettre d'être plus compacts. D'être plus petit. Et la technique de détection est quand même extrêmement compliquée, c'est-à-dire qu'on a donc ces fils métalliques avec des capteurs qui sont des photomultiplicateurs. C'est très cher. C'est voilà, ça demande quand même une. Enfin, l'électronique est plus compliquée, donc il y a, c'est pas comme. Et puis ensuite, il faut les déployer par 3500 mètres de fond. Et en ce sens-là, c'est plus compliqué. Ceci dit, en Chine, ils sont en train d'essayer de construire au large de je ne sais plus quelle côte un détecteur 10 fois plus grand que ça. Donc ça se trouve, ils vont réussir à faire cette prouesse. Mais fondamentalement, oui, la technique est différente. Si la Chine fait cette prouesse et a un détecteur vraiment très grand, mais même avec 10 fois la taille, ça suffit pas pour atteindre ce que nous, on veut. Nous, il faudrait 100 fois. Donc voilà, quand même. Pardon, je me perds un peu. Donc, quelle était la fin de votre question ? Oui. Oui, bah, en tout cas, à ultra haute énergie, il faut que le détecteur soit énorme. C'est ça, je pense. Pas juste économiquement, mais même d'un point de vue surface, déploiement, maintenance. Voilà. Il y a une autre expérience, pas concurrente, mais complémentaire, qui est au pôle sud, à côté d'Ice Cube, qui s'appelle Ice Cube Gen 2 Radio. Et donc, eux aussi, pareil, donc ils ont décidé de mettre de la radio sur, en fait, à l'intérieur de la glace et de détecter des signaux radio. Alors qu'ils ont aussi un système de filin comme ça. Parce que, voilà, clairement, pour avoir autant de volume instrumenté, il faut quelque chose qui soit, comme je disais, pas cher, etc. Mais aussi, en fait, la radio, c'est... Ça vole loin, ça fait des grandes empreintes. Il y a plein de raisons de faire de la radio à cette énergie-là. Et effectivement, c'est la seule technique viable, je pense.
Merci. Je profite de ce que j'ai le micro pour répondre à une question qui est sur le chat sur le calendrier de nos conférences. Donc, nos conférences sont chaque premier mardi du mois, à l'exception de juillet et août. Et vous pouvez trouver le programme des conférences en allant sur le site www.iap.fr et en cliquant sur conférences publiques. Et vous pouvez revoir toutes nos conférences qui ont été enregistrées et qui sont disponibles. Je ne sais pas s'il y a 30 ans de conférences, mais oui, il y a 30 ans de conférences. Donc si vous vous ennuyez, si on a, espérons que non, un nouveau confinement et que vous n'avez rien à faire, vous pouvez regarder 30 ans de conférences à l'IAP. En attendant, merci beaucoup Kumiko et rendez-vous en juin.
Merci.